Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour, bienvenue à l'actualité économique du jour. Bruno Le Maire ressuscite l'idée de la TVA sociale. Bon, il s'agit de basculer une poignée colossale de cotisations vers l'impôt et en l'occurrence vers la TVA. La TVA, plutôt d'ailleurs la CSG, à en croire ce qu'il dit dans les colonnes de Sud-Ouest dimanche, hier. L'idée, c'est de faire monter le salaire net. C'est toujours ce mantra selon lequel le travail doit payer davantage. Pendant ce temps, la course contre la montre continue pour reprendre le contrôle des finances publiques. Alors là, désormais, c'est vraiment la boîte à idées fiscales qui est ouverte. Il y en a un peu chez Bruno Le Maire, il y en a chez Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ou encore Jean-Paul Mattei. Et Marc Fesneau, dans les colonnes de la Tribune dimanche, nous dit « la question fiscale n'est pas tabou ». Voilà. Je vous donnerai les résultats de cette étude publiée par un think tank libéral espagnol qui place l'économie française à la 21e place dans l'Union européenne sur 27. Le même Marc Fesneau défend le libre-échange. Il considère qu'avoir voté contre le CETA, c'est du faux patriotisme. On en parlera dans cette émission. Bonjour Agnès Michel.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes associée chez Ixos Formation et vous avez publié le petit manuel à l'usage de ceux qui paient des impôts et voudraient bien savoir pourquoi chez Rue de l'Échiquier. Peut-être ceux qui vont en payer davantage bientôt, on ne sait jamais.
L'important, c'est de payer sa juste part.
D'accord. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, une place de marché qui offre des solutions concrètes d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Denis Père, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président de Nature and People First, vous êtes l'auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation, mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. J'ai pensé que le sujet sur le libre-échange était taillé sur mesure pour vous. Merci. Car ce sont des questions qui sont assez centrales dans les thèses que vous développez. Alors voilà l'idée de Bruno Le Maire. Il l'a écrite en page 68 de son livre La Voix Française. Il le répète dans les colonnes de Sud-Ouest hier. Il faut monter le salaire net. Il faut que le travail paie davantage. Donc il veut basculer 5 points de cotisation du salaire, du travail, vers la TVA pour faire la TVA sociale, tout simplement. Cette interview intervient au moment où également Fipeco.fr sort avec François Eckhall une note observant la structure de la fiscalité et des prélèvements obligatoires français et constatant que nous taxons davantage que les autres le capital, nous taxons nettement plus que les autres le travail, les fameuses cotisations sociales qui sont des prélèvements obligatoires, mais nous ne sommes pas du tout au record du monde en matière de taxation sur la consommation. Nous sommes à la 25e place des pays européens, nous dit François Eckhall, sous-entendu, il y aurait potentiellement de la place avec la TVA pour agir. Est-ce que vous êtes partant ?
Oui.
Léonidas Kalogeropoulos.
Oui, et depuis longtemps.
Ça a des défauts, hein ?
Pardonnez-moi.
Ça a des défauts, la TVA sociale.
Non, mais il y a d'abord le modèle parfait. Je pense que c'est une quête désespérée. Donc, tout a des défauts. En revanche, on a 100 milliards de déficit commercial. Et ces 100 milliards de déficit commercial, de produits importés, ne payent rien à notre modèle social. Donc, on rajoute un peu de TVA, ne serait-ce que 2 points de TVA supplémentaires sur 100 milliards, vous avez 20 milliards qui viennent en contribution et qui peuvent, en contribution à nos modèles sociaux et qui peuvent venir en soustraction des charges qui pèsent sur le travail.
Sans jamais oublier que c'est le consommateur qui paye à la fin.
Oui, mais vous savez, on a cette question qui est récurrente. Est-ce que le consommateur est juste un consommateur dans l'absolu, j'allais dire, shooté aux allocations? A priori, le consommateur, il est consommateur parce qu'il a un travail et parce qu'il a un revenu de son travail. Et si le revenu de son travail est systématiquement amputé de ce que coûte notre modèle social qui est ambitieux, eh bien, ce consommateur, il a moins de pouvoir d'achat. On lui redonnait du pouvoir d'achat avec, un revenu de son travail qui n'est pas autant amputé qu'il l'est sur le financement de notre modèle social. Et faire porter une partie à des produits qui sont importés, surtout dans notre économie qui est à ce point dépendante de ces importations, ça me semble être un rééquilibrage qui est nécessaire. D'ailleurs, ça fait longtemps que l'on en parle. Le constat que fait aujourd'hui Bruno Le Maire, ça fait une vingtaine d'années que ce constat est fait. Effectivement, je pense qu'il est temps de remettre d'actualité. Et puis, il y a une autre chose qui me semble fondamentale, c'est que cette sacro-sainte idée que le consommateur serait l'aiguillon de tout, véritablement, il faut lui redonner la complétude de ce qu'il est, ce consommateur. Il est effectivement quelqu'un qui travaille dans une entreprise, et ce phénomène de travail payé par l'entreprise ne peut pas être le socle sur lequel la totalité de notre modèle repose, sinon le déséquilibre, et c'est, je pense, une clé d'explication des déséquilibres de notre économie.
Mais dans la mesure où on prendrait ce type d'arbitrage, ça veut dire qu'on prend les éléments positifs, mais on intègre aussi les éléments négatifs. Si vous faites la TVA sociale et que vous basculez 60 milliards d'euros de cotisations, certes, vous aurez des salaires nets qui vont augmenter, vous allez avoir un coût du travail qui va baisser, vous pouvez considérer que les touristes qui passent sur le sol français participent au financement du système puisqu'évidemment ils payent la TVA, vous avez un effet compétitivité prix, car finalement ça va s'apparenter à une dévaluation monétaire.
Absolument.
Où le produit qui est exporté, eh bien lui il est gagnant alors que le produit qui est importé est perdant, mais vous assumez le fait de faire de l'inflation.
Oui.
Et vous assumez le fait de toucher à un prélève, enfin à une taxe en l'occurrence, qui est jugée, et ça se défend, injuste dans la mesure où elle est la même payée par tous.
Écoutez, elle est pas juste.
Mais on est obligé de faire...
Il y a quand même une chose, c'est qu'on ne la paye que si on consomme, on la paye sur sa consommation, et donc effectivement, il y a des arbitrages qui se font. Mais encore une fois, le système, dans un système circulaire de l'économie, toucher un facteur, c'est forcément impacter les autres. Donc effectivement, les arbitrages, me semble-t-il, sont favorables à ce modèle-là.
Parce que sinon, il y a la CSG.
Alors...
Non, mais la CSG, vous n'aurez pas l'effet salaire net.
Non. Voilà.
Donc, vous aurez l'effet justice parce que tous les revenus participent. Et vous n'aurez jamais des 100% gagnants dans la situation. Voilà. Il y a un moment où il faut faire un choix. Bon, pour l'instant, aucun choix n'a été fait. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy, en 2007, qui avait brandi cette idée. Elle a été défendue par des économistes que vous connaissez bien ici, notamment Philippe Aguillon, en 2012, je crois. Il ne s'est rien passé. Monsieur Denis Père, qui verse des salaires.
Oui,
qui en a versé beaucoup dans sa vie.
Beaucoup dans ma vie, absolument.
Qui sait ce que c'est que le coût du travail.
Complètement. Moi, je suis habituellement pas favorable au bonto fiscal. Hein, en l'occurrence,
alors, c'est un peu
ça.
Du bonto.
Hein, c'est vraiment le
c'est
bonto,
une facture c'est... que vous déplacez.
Voilà. Et c'est mécanique, c'est facile. Bon. C'est facile sur le papier. J'y suis pas favorable. Néanmoins, ce que j'aime bien quand même, c'est ce que vient de dire Leonidas. C'est-à-dire que c'est une manière de faire supporter le coût de la protection sociale à l'ensemble finalement de l'économie. C'est le modèle danois en fait. Hein. C'est le Danemark a des prélèvements très très élevés, hein, très proches des nôtres. Hein. On se bat régulièrement en haut du podium. Des
on est, oui, effectivement, à peu
les
près.
Les plus élevés, 45-46 points de PIB. Et le Danemark a une TVA qui est à 25%. Hein. Donc le Danemark, depuis très longtemps, effectivement, a choisi de faire porter effectivement la protection sociale beaucoup plus sur la consommation que sur le travail, et donc a réussi à conserver une industrie qui est assez prospère. Hein. Le Danemark est un pays qui reste très industrialisé. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Là où je suis plus critique, c'est effectivement les conséquences. C'est-à-dire qu'on cherche à augmenter le reste à vivre, et on reprend d'une main ce qu'on donne de l'autre. Enfin, c'est le risque en tout cas. Hein. Donc moi, je le vois comme une
solution. A priori, le salarié devrait quand même être parmi les gagnants à l'arrivée.
Il faut espérer, mais effectivement, tout le monde la paye, la TVA, 25% en l'occurrence. Hein. Donc il faudra peut-être faire un effort à ce moment-là sur les produits de première nécessité pour que les plus modestes, effectivement, soient peut-être les moins impactés. Et moi, je vois plus comme une mesure qu'on peut étaler dans la durée. Et je pense que la seule solution pour augmenter le reste à vivre, le salaire net, c'est de travailler sur l'efficacité de la dépense publique. C'est le sujet numéro un, c'est le sujet tabou, dont personne ne parle jamais, mais auquel il va falloir qu'on vienne quand même un jour. On a effectivement aujourd'hui une dépense publique qui est record du monde, qui est à 56 points de PIB, de fait des prélèvements aussi qui sont des records mondiaux, une inefficacité globale maintenant qui apparaît aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les Français sont demandeurs en plus de cette réforme, parce que se rendent compte que plus on dépense, plus on a de bureaucratie, plus on a d'inefficacité, le système de santé s'effondre, le système éducatif s'effondre, on rajoute de l'argent et c'est pas pour ça qu'il s'améliore. Donc il y a même une demande, ça devient populaire aujourd'hui.
Ça va devenir populaire.
C'est en train de devenir populaire.
Oui, c'est
un sujet qui va sortir de BFM Business pour devenir un sujet d'intérêt général.
C'est plus un sujet de financement de la dette, ça devient un sujet populaire, donc c'est intéressant.
Il y a des revues de dépenses.
Y compris Nicolas, chez les fonctionnaires, y compris chez les fonctionnaires eux-mêmes, qui sont les premières victimes aujourd'hui de cette dépense publique incontrôlée, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On renforce les services centraux, on renforce les back-office, les petits chefs qui contrôlent, qui émettent des CERFA, qui demandent des reportings qu'on ne lit pas.
On va supprimer les CERFA, vous avez vu ça en 2027.
Non, mais ça devient populaire. que Bruno Le Maire, effectivement, propose de supprimer les CERFA. Donc, on voit bien que le sujet commence à rentrer dans le débat public comme un sujet populaire.
Et voilà,
donc, je pense que le vrai sujet, c'est ça. Sauf que ça, effectivement, c'est un chantier de longue haleine.
C'est pas le même chantier.
Qui est compliqué.
Même,
hein. Voilà. C'est pas le même compliqué, chantier. Bon. C'est des problèmes de management, d'organisation, etc. Donc, c'est quand même très compliqué, ça prend du temps.
Bon. Il y a 10 revues de dépenses publiques actuellement lancées. Bruno Le Maire le rappelle. Il y aura une loi de simplification avant l'été. Bon. On va bien voir si on arrive un jour ou l'autre à lancer l'histoire. Agnès, par rapport à ce qui s'est dit depuis le début de l'émission, votre réaction par rapport à ce que nous dit Bruno Le Maire, 5 points de cotisation basculés vers l'impôt, et je pense qu'il pense plus à la TVA qu'à la CSG.
Alors, petit rappel, comme toujours, allez-y. Quand on parle des prélèvements obligatoires, on est bien sur des systèmes d'assurance qui, dans un certain nombre de pays, sont payés sur le salaire net qui est touché, qui est peut-être plus élevé, effectivement, dans un certain nombre de pays, mais sur lequel, ensuite, chacun individuellement doit défalquer ses propres assurances. Donc, il faut toujours rééquilibrer ça aussi.
On est d'accord.
Sur la dépense publique, j'aurais quand même une petite nuance aussi, c'est qu'il y a dépenses et dépenses. Vous parliez de l'hôpital. Le problème de l'hôpital, c'est pas les dépenses de santé en elles-mêmes. C'est la facture à l'acte qui est complètement délétère pour quelque chose qui n'est pas censé être rentable et encore moins profitable, mais bien soigner les gens et à renforcer la place de tout l'administratif au détriment des soignants. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on donne beaucoup d'argent à l'hôpital, on en donne plutôt moins, mais on en donne pas aux bonnes personnes.
Tout à fait.
Et mais puis, on a eu aussi revenons sur la TVA sociale.
Mais parce que, en fait, ce qui se passe sur la TVA sociale, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que aujourd'hui, vous avez. Ce qui m'inquiète, c'est que ce soit conçu comme ça. En tant que bonne écolo, j'ai toujours été pour une TVA écolo et sociale sur les produits qui arrivent effectivement sans avoir, en étant beaucoup moins cher, puisque.
N'ayant pas les mêmes contraintes.
Dans des situations abominables en termes sociaux et conséquences environnementales. Qu'on finit par payer par ricochet par ailleurs. Mais ce qui m'inquiète là, c'est juste de dire, de voir sur les deux mandats de Macron diminuer tout ce qui était de l'ordre du paritaire. Moi,
c'est un autre sujet.
Oui, mais.
C'est un autre sujet, ça... Agnès, là.
On n'est
pas.
Là,
le paritarisme n'est pas vraiment en cause.
Sauf que, à un moment donné, oui, si vous passez vers des ressources de l'État.
Ça revient à nationaliser.
De fait.
Bon, j'admets.
Non, mais
c'est pour toi. Effectivement, si on nationalise quelque chose qui repose sur de la cotisation sociale, on peut considérer qu'il y a une forme de nationalisation qui ne dit pas son nom pour ce qui est de la gouvernance.
Oui.
Bon, c'est jamais tellement assumé par le pouvoir.
Ça peut être problématique. Parce qu'il est très facile, une fois qu'on a nationalisé, de dire là, on est un petit peu en difficulté, donc on va aller piocher là-dedans. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une illusion de ma part, étant donné ce qui s'est passé sur les retraites et ce qui est en train de se préparer sur le chômage. Donc il faut avoir ça en ligne de mire. Effectivement, il y a probablement beaucoup de choses à faire sur la TVA, et justement pour renforcer les productions locales, avec une TVA qui serait effectivement sur les produits importés, beaucoup plus élevé. C'est possible en négociant avec l'Union européenne. C'est aussi un vieux sujet et je pense que ça sera un effet de levier beaucoup plus important.
Là, il y a quand même l'idée du salaire net qui doit augmenter. Hein. C'est vraiment ça qui est le moteur de Bruno Le Maire.
Pas seulement. Il n'y a pas uniquement Léonidas, la question du salaire net. Il y a aussi la capacité, et je pense que c'est une obsession légitime de Bruno Le Maire, de réussir notre réindustrialisation. Et le fait d'avoir...
En abaissant le coût du travail.
Et oui, en abaissant le coût du travail.
Il n'est déjà pas très élevé en France, le coût du travail. Ah, le prix du travail.
Enfin, je n'ai pas cette perception. Non, les salaires ne sont pas très élevés, mais le coût de salaire est extrêmement élevé. Et je pense qu'il pèse.
La différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est justement là. Et le salaire brut en France, il n'est pas dramatiquement bas, mais effectivement, le net dans la poche du salarié à la fin du mois, il est sérieusement amputé.
Oui, mais il y a des dépenses que le salarié français n'a pas.
Léonidas, c'est vrai que c'est des prélèvements.
Non, mais si on se compare aux États-Unis, on n'a pas payé l'éducation des enfants, mais même l'Angleterre, la santé n'a pas le même prix.
Moi, j'ai eu des salariés dans tous les pays d'Europe. En Europe, à 2000 euros net par mois, en France, à 2000 euros net par mois, le coût pour l'entreprise est 3 500 euros.
Oui.
Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, il est 500 à 1000 euros moins cher pour des prestations équivalentes. équivalents, des modèles sociaux qui sont strictement comparables. On ne parle pas des États-Unis, hein, on se compare à des voisins européens. Le coût global du salarié français brut-brut, il est nettement plus élevé que chez nos voisins. Faites l'étude, sérieusement.
Qu'est-ce qu'il reste à payer aux salariés français ?
Attendez, avec la même prestation, l'Allemagne n'est pas un enfer social, les Pays-Bas non plus, l'Espagne non plus, arrêtons cette fable. Mais c'est ce que vous sous-entendez, madame. Mais c'est ce que vous sous-entendez, mais bien sûr que si.
Je dis juste qu'il faut comparer ce qui est comparable.
Là, je compare des choses comparables. Je ne compare pas aux États-Unis. 2000 euros net, 3500. Le surcoût est colossal. Faites des études sérieuses sur ce sujet, madame, avant de venir sur des plateaux raconter des histoires qui sont des contre-vérités. Mais oui, madame, sérieusement.
Bon.
Sérieusement. Non, mais on profère comme ça des. J'ai eu des salariés dans tous les pays d'Europe.
Non, mais
j'ai
le coût du travail en France reste important, il y a eu des progrès.
Il est colossal.
En tout cas, ce serait une mesure radicale de modification du coût du travail. Si 5 points de cotisation qui basculeraient d'un coup d'un seul.
Je pense que ça mérite, c'est de remettre une capacité à faire tenir des industries en France, alors que
nous avons assisté
depuis 20 ans à leur disparition systématique. Et comme c'est à l'évidence le projet phare de Bruno Le Maire, à la fois de réussir cette réindustrialisation pour aller vers le plein emploi, qui est la clé, c'est un des ingrédients absolument essentiels. Et dans cette vision globale, je pense que cette étape est nécessaire. Ce qui me gêne plus dans la démonstration de Bruno Le Maire, c'est dans quel calendrier il inscrit. Non, il n'y a pas de calendrier. Il a l'air de dire que c'est une mesure qui nécessite un passage en référendum. Or, je ne suis pas totalement certain que les conditions soient réunies pour que ce se fasse rapidement, et je pense que ça fait partie des mesures qui devraient se faire rapidement, principalement pour que l'on puisse réussir cette réindustrialisation, parce qu'elle est à l'œuvre, mais elle se heurte quand même à des problèmes de compétitivité dès lors que l'on veut exporter nos produits surchargés socialement.
Quand on regarde les chiffres précisément, Léonidas, ce qu'on appelle la réindustrialisation, c'est assez embryonnaire en réalité.
Oui, mais pardon,
c'est embryonnaire. Quand on voit 2-3 grands projets de méga-factory.
Non, mais c'est embryonnaire dans la bonne direction.
Oui.
Oui, c'est embryonnaire dans la bonne direction. Enfin, il faut bien qu'à un moment donné, le cap soit tourné dans la bonne direction.
Il y a un moment, pas du jour au lendemain. Il y a un moment, on ne fait que transférer une facture d'un point A à un point B.
Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Denis Père sur la nécessité d'une réforme de l'État. Et si on fait la TVA sociale à la place de la réforme de l'État, c'est bien entendu une fausse bonne idée. Mais faire les deux, oui, ça c'est effectivement un cap utile.
Dans la même interview d'ailleurs, Agnès, Bruno Le Maire, il a dit qu'il voulait nationaliser l'UNEDIC. Carrément, c'est assumé.
Encore une fois, je rappelle quand même que le paritarisme a bien fonctionné en termes de gestion, plus d'ailleurs que ce qui est géré directement par l'État, même si il y a aussi le financement de la sécurité sociale qui fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale et sur proposition du gouvernement. Je suis embêtée sur toutes ces attaques systématiques sur le paritarisme et tout ce qui est corps intermédiaire, parce que les corps intermédiaires, on en a besoin. Je trouve ça assez étonnant que le gouvernement n'ait pas compris, après avoir eu les gilets jaunes, les montées de boucliers et les réactions extrêmement violentes qu'il y a eu au moment de la vaccination. Tout ça, en fait, ça existe parce que justement, il n'y a plus de corps intermédiaire, plus de structures qui accompagnent les gens et qui permettent de donner, alors appelons ça éducation populaire si vous voulez, ou autrement, mais en tout cas, qui donnent une vision alternative, qui alimente la démocratie et qui permettent d'éviter de se retrouver dans cette situation qui est mauvaise pour tout le monde, de l'individu tout seul face à un État qui, en plus, en France, est omniprésent.
Oui,
je ne comprends pas qu'il n'ait pas appris de ses erreurs. Je trouve ça un petit peu dommage
pour
des personnes à cette responsabilité-là.
D'abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit quand même, Denis Michel, parce que je vois lui-même la tentative de nationaliser.
Mais là, c'est une volonté à Agirc-Arrco. Alors Agirc-Arrco, ça n'a pas été vraiment assumé, mais sur l'UNEDIC, c'est.
Oui, mais très sincèrement, je vois pas où l'État a fait la démonstration de sa vertu de gestion et sa vertu budgétaire pour pouvoir dire on va faire mieux. Non, je suis pas du tout certain que ce soit un combat très intéressant.
Puis je vais te dire quand même, parce que sur BFM,
allons-y,
de temps en temps,
allons-y.
Les syndicats sont importants pour la vie sociale et en entreprise.
Je suis totalement convaincu, et ça pourrait nous ramener aussi au modèle scandinave.
Les syndicats salariaux, les syndicats patronaux aussi, parlais des syndicats salariaux.
Le problème, c'est qu'on a un personnel syndical qui, intellectuellement, pour certains d'entre eux, est resté un peu au XXe siècle. Mais je pense que la vie...
voire au XIXe.
La vie syndicale et le dialogue social...
Moi qui les fréquente tous les jours, je sais pas qui est plus resté sur le XXe siècle, entre des schémas de gestion d'entreprise d'un côté et de l'autre, mais globalement, faut pas tomber dans la caricature, la plupart des accords sont signés.
C'est vrai.
Et par contre, on pourrait, ça c'est vrai, mettre un peu plus de démocratie en entreprise. Je pense que ce serait important pour tout le monde parce que je sais que ça n'est pas forcément ce qui se dit le plus, mais oui, les salariés qui sont sur le terrain ont de bonnes idées pour améliorer, pas que les conditions de travail, mais la production, la qualité de la production, les produits de façon générale. Et c'est dommage de ne pas plus les écouter, d'où l'importance aussi des syndicats.
Les pays qui ont un système social assez bien organisé, notamment au nord de l'Europe, vous êtes obligés d'être syndiqué pour avoir accès à vos droits.
Pardon, plus on est syndiqué et plus il y a une certaine forme de modération dans les syndicats, moins il y a de syndicalistes et plus il n'y a que des extrêmes dans les syndicats. Et c'est simplement parce que sur ces antennes, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec un représentant de la CGT qui expliquait que verser des dividendes, c'est du vol, qu'on est par moment un tout petit peu réticent à ouvrir le dialogue social ou la démocratie sociale à certains syndicats qui refusent tout simplement le mode de fonctionnement de l'économie. Mais dans l'absolu,
Pourquoi ne pas mettre sur la table la discussion sur le fonctionnement du modèle de l'économie? Ce n'est pas une vérité absolue révélée sur la place des dividendes de la rémunération du capital par rapport à la prise de risque. Il y a des choses intéressantes à dire. Oui, il y a une prise de risque, mais on risque son argent. Aujourd'hui, on sait, il y a toute une série qui est sortie dans le monde, il y a 2 morts par jour dans le travail. Est-ce que la prise de risque du salarié n'est pas équivalente, voire supérieure à celle qui met uniquement de l'argent? Moi j'ai évidemment une idée que vous devinez, mais la question, c'est pas ce que je pense moi ou même ce que vous pensez vous, malgré tout le reste de suspect que j'ai posé, c'est posons le sujet sur la table. Il n'y a pas de tabou.
On marque les jours dans l'entreprise.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant, j'évoquerai avec vous le grand concours Lépine fiscale est ouvert. Il n'y aura pas d'hausse d'impôts, dit Bruno Le Maire, et pourtant il y a plein d'idées qui circulent, à tout de suite.
Est-ce la bonne décision ou quelque chose?
Trop tard pour moi.
Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, associé chez Ixos Formation. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Denis Père, le président de Nature and People First, il a publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Alors j'ai un auditeur, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, Denis. Il s'appelle Stanislas. Il me parle des taux de risque de pauvreté. Alors taux de risque de pauvreté, j'ai pas tellement l'habitude de voir cette notion. En me mettant Allemagne, Espagne, France, et donc c'est en Espagne où le taux de risque de pauvreté, m'écrit cet auditeur, est le plus faible, partant du principe qu'il y a des modèles sociaux plus ou moins accueillants et plus ou moins cléments en fonction des pays, et qu'on est plutôt bien traité ici.
Oui, c'est ça. Enfin, on est bien traité un peu partout en Europe. Après, il y a des différences d'un pays à l'autre, mais qui sont mineures.
Taux de risque de pauvreté.
Avec des modèles sociaux qui coûtent beaucoup moins cher.
La course aux économies de dépenses, mais là, moi, je vois surtout des choses qui vont impacter forcément des gens qui seront derrière les décisions politiques potentiellement prises. Donc, bon, il y a la volonté de durcir les règles de l'assurance chômage, Bruno Le Maire le répète, Madame Vautrin aussi, dans les colonnes du JDD, la ministre du Travail, le répète aussi, en disant que les seniors, il ne faut pas les indemniser davantage, mais les faire travailler davantage, et que la solution sera dans le travail et pas dans l'indemnité. Ça sent à plein nez la réforme de l'assurance chômage, avec ses éléments préférentiels qui interviennent au-delà de 55 ans. Et puis sinon, il y a l'histoire de réformer toujours l'indemnisation des affections longue durée, qui est citée, le fait de moins rembourser les transports sanitaires en taxi, ça vous est au courant. Et Bruno Le Maire a dit qu'il compte bien continuer à taxer les rentes des producteurs d'énergie lorsqu'ils font des profits très importants uniquement parce que les prix de marché augmentent. Et puis Yael Brand-Pivet propose un impôt exceptionnel sur les super-profits. Et puis Jean-Paul Mattei veut une flat tax sur les revenus du patrimoine. Et Marc Fesneau nous dit, attention, la question fiscale ne doit pas être tabou. Ça vous... vous vivez comment cette ambiance?
Non, mais bon, on est dans un moment...
Le maire répète qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Ça ne m'a pas échappé. Et je trouve que le principe de dire que l'on ne va pas bouger les curseurs est un principe assez sain, sans compter que lorsqu'il y a des revenus qui augmentent, les taux s'appliquent et donc les impôts sont supposés rentrer davantage.
C'est pour ça
que,
d'ailleurs, les prélèvements obligatoires sont restés à des niveaux équivalents, alors que des baisses d'impôts sont bien intervenues. C'est parce qu'il y a eu des recettes qui ont
Voilà. Et d'ailleurs, ça a montré que les courbes que l'on énonce, qui est qu'au-delà d'un certain niveau, le fait d'augmenter les taux fait baisser les revenus des impôts, est un principe qui fonctionne.
C'est les hauts taux, tu les totaux.
C'est joliment dit.
Oui, les autos,
les autos, tu les autos. En revanche, sur la situation globale de l'économie, plutôt que d'aller chercher des taxes nouvelles, je suis juste un tout petit peu étonné qu'on ait l'air de découvrir que les recettes sont moins importantes, que l'économie va mal, alors que depuis un an, on augmente les taux d'intérêt justement pour que l'économie aille moins bien. On a augmenté les taux d'intérêt parce que on a voulu juguler l'inflation qui n'avait pas véritablement de raisons traditionnelles, mais on a utilisé l'outil traditionnel, la hausse des taux d'intérêt, en disant que l'économie s'emballe, alors qu'elle était à peine à 1%, qu'il faut absolument resserrer l'activité. Donc on a resserré l'activité, donc on est en train d'assister à un ralentissement général de l'économie avec des recettes fiscales qui sont moindres. Enfin, je vois pas où est la surprise, je suis juste fasciné qu'on s'en étonne, et je ne vois surtout pas comment... Ce serait avec des hausses d'impôts que l'on va corriger un phénomène comme celui-là. Il faudrait mieux de faire revenir les taux d'intérêt à des niveaux plus raisonnables, et ça devrait en principe faire repartir l'économie.
Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ces listes à la Prévert que je vous fais régulièrement, c'est que la plupart de ce que je cite, ça ne veut pas dire monter une taxe ou monter un impôt, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle couper une niche fiscale, ça s'appelle baisser une dépense fiscale, ça porte plein de noms différents, mais à l'arrivée, c'est toujours des euros qui étaient dans une poche et qui n'y seront pas, ou qui n'y seront plus. Denis Perge, vous voyez...
Oui, je suis tout à fait en phase avec Léonidas. Dans le pays le plus fiscalisé au monde, enfin, ouvrir la boîte à idées de la créativité
fiscale...
Mais c'est pas
de la fiscalité,
justement. Oui, voilà, c'est très subtilement présenté.
Même la sémantique toujours, est créative.
Voilà, même la sémantique est créative, effectivement, il vaut mieux.
Si je rembourse moins les transports sanitaires en taxi, c'est pas de la fiscalité.
Oui, non, bien entendu. Alors, des économies de dépenses, oui, ça, on peut effectivement en trouver un certain nombre. Peut-être qu'effectivement, le remboursement des taxis, je sais pas, c'est un sujet qui est mal.
Dès qu'on a une idée d'économie de dépenses, vous avez un perdant.
Exactement, bien sûr. Et après, on est peut-être...
On se dit où va l'argent, il va dans ce genre de choses.
Non, mais comme le dit Léonidas très justement, il y a un phénomène assez mécanique qui est lié à la hausse des taux, effectivement, qui fait ralentir l'économie. Ça, c'est pas très surprenant. Et puis, il y a peut-être aussi une illustration de la courbe de l'affaire. Enfin, je veux dire, trop d'impôts tue l'impôt. Enfin, je veux dire, on est probablement en plein dedans aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, dit qu'on n'augmentait pas les impôts. Mais en fait, on les augmentait quand même régulièrement. On est toujours champion du monde de la fiscalité.
On est champion du monde, mais on a baissé l'impôt sur les sociétés.
Voilà, on a baissé certains impôts qui étaient effectivement très pénalisants pour
l'économie. On n'a plus touché à la taxe sur les carburants.
Bien sûr, on a baissé les impôts de production.
Les impôts de production ont commencé à baisser, même si le rythme de la baisse a été un peu étalé dans le temps.
Voilà, mais c'était quand même une très bonne nouvelle. Donc ça, c'était des bonnes choses, mais on a quand même au global une pression fiscale qui reste la plus élevée au monde. Et donc, on a probablement, au final, une illustration de la courbe de l'affaire, effectivement, tout simplement, quoi, hein, où trop d'impôts tue l'impôt. Donc, tout ça, effectivement, plaide en faveur de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une remise à plat de l'efficacité de la dépense publique, qui est un chantier qui est lourd, effectivement, qui est incompatible avec le fait de rechercher dans l'urgence des économies.
C'est incompatible avec les avis d'agence du 26 avril, ça c'est certain.
Exactement, voilà. Vous pouvez pas engager,
pas nous
au passage,
laisser le
j'étais
temps.
D'accord avec ce que disait madame tout à l'heure sur le poids des structures centrales dans les hôpitaux en particulier, et pas seulement, dans toutes les administrations.
C'est
très
frappant, ça. C'est le fameux mammouth de monsieur Claude Allègre.
C'est le fameux mammouth de Claude Allègre qui n'a pas bougé. Il y a une étude, effectivement, sur l'éducation nationale de 2012, de Thomas More, j'ai déjà dû la citer dans cette émission, qui comparait le poids, effectivement, de la rémunération des enseignants en Allemagne et en France. En Allemagne, on est à plus de 80% pour le poids des enseignants et 17% à peu près pour le poids de l'administratif. En France, c'est pratiquement 50-50. Donc on sait très bien, dans l'éducation nationale, c'est absolument phénoménal. Donc on sait très bien que le modèle de management public français, c'est un modèle qui est très très lourd en systèmes centraux. C'est dû au fait que on a un modèle qui est extrêmement jacobin, qui est extrêmement centralisé, qui s'appuie très très peu sur la décision locale, sur l'autonomie locale, sur la subsidiarité, qui donne très peu d'autonomie de décision à qui que ce soit, que ce soit des chefs de service dans les hôpitaux, que ce soit des directeurs d'établissement dans l'éducation nationale. Et ce modèle, il coûte très très cher, il est très inefficace. Et donc, tant qu'on ne remet pas à plat ce mode de management, ce mode d'organisation, on aura des coûts qui seront structurellement beaucoup plus élevés. Mais ça se fait sur la durée. Ça ne se fait pas en 15 jours, effectivement, avant une annonce de dégradation de la dette française.
Agnès, sur la fiscalité.
Je suis d'accord avec vous. C'est effectivement le problème de la répartition, la répartition des charges de l'État. Moi, je suis toujours un petit peu gênée quand on dit on va diminuer des dépenses qui concernent la santé de personnes. A priori, si quelqu'un a besoin d'un déplacement,
pour les ALD notamment.
Oui, les ALD ou les déplacements en taxi pour des personnes hospitalisées. Je trouve qui sortent de l'hôpital. Je trouve que d'un point de vue d'image de la société, de nous. Ça dit quelque chose qui n'est pas forcément hyper constructif, alors que j'ai vu qu'il y avait une réflexion sur le CIR qui...
Le crédit d'impôt recherche,
qui depuis le début pose des problèmes dans sa conception, puisqu'il est beaucoup trop large, qu'il est souvent capté par des grands donneurs d'ordre au détriment des petites entreprises qui, pour qui il était conçu, et qui coûte finalement relativement cher. Je ne mentionnerai pas le CICE, alors là j'ai oublié le nom de...
Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a été basculé ensuite en baisse de cotisation. Ça doit être un 20 milliards par an. Pour le CICE et le CIR, on commence à approcher des 7 milliards. C'est la première niche fiscale de France avec l'indemnisation, enfin avec la niche fiscale concernant les emplois à domicile.
Donc, aujourd'hui, et c'est effectivement, il y a une question autour de ces niches, même si effectivement ça veut dire reporter en augmentation globale du volume d'impôts, mais enfin c'est juste une remise à plat de pourquoi la décision a été prise quand on enlève une niche fiscale, on revient à la même norme pour tout le monde quelque part. Quand on fait par exemple sur les aides à domicile, je ne dis pas que ce soit celle-là qu'il faille attaquer en premier.
Elle est élevée, celle-là.
Il se trouve que celle-ci, elle bénéficie à qui? Aux personnes qui payent des impôts. Moi, j'ai la chance d'en payer, mais un certain nombre de personnes n'en payent pas. Donc, il y a une inéquité qui est fondamentale sur cette exonération. Or, même les plus pauvres ont besoin d'aide à domicile.
C'est un crédit d'impôt, hein, l'aide à domicile. C'est pas uniquement une ristourne d'impôt, ça marche aussi sous forme de crédit d'impôt.
Alors, autant pour moi.
Et d'ailleurs, on est en train de juguler le système de versement anticipé qui a été mis en place de manière à ce qu'il n'y ait pas le décalage d'un an.
Bon. Par contre, idéalement, sur ces aides à domicile, ce qui serait idéal, en fait, c'est, étant donné que ce sont les départements qui gèrent toute la solidarité, à qui on a enlevé un certain nombre de revenus, d'ailleurs, même s'ils avaient une toute petite partie de la taxe d'habitation, mais c'est vrai que aujourd'hui il faudrait revaloriser les budgets des départements ou d'une instance décentralisée quelle qu'elle soit, mais vraiment décentralisée, pour qu'il y ait une vraie autonomie de décision là-dessus. On ne se retrouverait pas à devoir créer ces niches puisqu'il y aurait un vrai système qui
alors il y a pour ces niches juste Léonidas elles ont quand jour. Même réussi à quasiment faire disparaître le travail au noir, enfin faire disparaître peut-être pas encore, mais
sur le travail à domicile ça a été essentiel.
C'est absolument radical. Et l'intérêt, c'est que lorsque vous avez du travail au noir, vous avez des gens qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas de protection, qui ne versent pas de cotisations. Donc c'est le bilan économique pour la collectivité de cette dépense, ce crédit d'impôt, c'est que quand même, avec ce que versent en cotisation ceux qui travaillent et qui sont déclarés, non seulement ils ont des droits, mais ça rapporte plus que la dépense. Donc c'est un...
Bien sûr, mais par contre, on est sur des associations en général qui fonctionnent par délégation de services publics, dont les budgets sont assez restreints, départements, ARS, selon les sujets, etc. Et c'est vrai que là-dessus, s'il y avait plus d'autonomie aujourd'hui, de toutes les façons, c'est reculer pour mieux sauter, puisque avec le vieillissement de la population, c'est des budgets qui vont augmenter. Donc, ne pas vouloir traiter le sujet dans son intégralité, ce qui reboucle avec l'efficacité de la dépense publique, c'est se tromper. Et ce ne sont pas effectivement toujours individualisés, avoir des démarches d'individualisation avec ces crédits d'impôt ou ces exonérations qui va résoudre fondamentalement le sujet.
On avance. Chaque fois qu'on a voulu toucher aux niches fiscales, fiscal et au crédit d'impôt lié à l'emploi à domicile pour les réduire, et notamment Christian Eckert avait fait ça sous François Hollande. Alors là, vous avez, dès que vous baissez le système, vous avez le travail au noir qui repart en flèche. Alors c'est en 15 jours.
Mécanique.
En 15 jours, c'est fait. Il y a un auditeur qui s'appelle Lionel, il trouve scandaleux qu'on s'attaque aux cancéreux. Parce qu'il pense au fait qu'on va peut-être réduire les indemnités qui sont versées aux gens souffrant d'affections de longue durée, qui ça représente plus de la moitié de la dépense de santé en France. Dans quel camp êtes-vous, Denis Paire, au sujet du libre-échange ? Les sénateurs, dans un geste très politique, ont voté contre CETA. Vous allez faire un sondage dans la rue, les gens vont vous dire qu'il faut se protéger contre ces produits dans des conditions environnementales dramatiques, quelquefois des conditions sociales dramatiques, et qu'on a raison de se protéger et de dire non au libre-échange.
Alors, moi, je dénonce effectivement des différentiels de normes sociales et environnementales très conséquentes entre des pays émergents et des pays développés. Nous, on a 150 ans d'histoire sociale, 50 ans d'histoire environnementale. La plupart des pays émergents ont très peu d'histoire sociale et environnementale, ont très peu d'ailleurs de possibilités de la faire évoluer, puisque c'est souvent des régimes très autoritaires, voire totalitaires, et donc il n'y a pas de débat public, hein, parce que finalement l'émergence de ces normes, c'est le résultat du débat public, hein, et de la démocratie. Donc quand un pays n'est pas une démocratie, il a souvent très peu de normes sociales et environnementales. C'est qu'à la Chine, par exemple, aujourd'hui. En général, effectivement, ça concerne effectivement les pays émergents et les pays autoritaires versus les démocraties libérales. Là, on a un contre-exemple, effectivement, avec le Canada et le CETA, où on a effectivement, semble-t-il, en matière de viande bovine, un vrai débat sur des normes environnementales qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Alors, quel est l'écart exactement entre leurs normes et les nôtres ? Quel est l'écart de coût de production, surtout, parce que c'est ça, moi, que je dénonce, au final, parce que c'est comme ça que ça se traduit, hein. C'est-à-dire que moins vous avez de normes sociales, moins vous avez de normes environnementales, plus le coût de production est bas et plus vous avez des risques de concurrence déloyale. Et donc, s'agissant du CETA, il y a peut-être un sujet, effectivement, sur la viande bovine.
Dorothée Bouzet, quand même... du Trésor, nous disait ici même vendredi que la viande bovine qui était produite dans des conditions sanitaires ne correspondant pas aux nôtres, donc avec notamment des antibiotiques, était une viande qui n'était pas inclue et autorisée dans le cadre des quotas CETA.
Oui, et c'est ça auquel le sujet. Mais auquel cas, le problème est réglé. Donc,
c'est là où il y a du problème. Mais non, parce qu'il y a eu
Il y a le réglementaire
aussi. Il y a une forme de porosité avec le Mercosur. On a eu le Mercosur, c'était dramatique. Donc, ça a inscrit l'idée que, de toute façon, dès qu'il y avait le mot libre-échange et accord de libre-échange, tout était dramatique et à jeter à la poubelle. Sauf que CETA, il fonctionne sur le terrain commercial depuis 2017.
Exactement.
Donc, on a du recul, on sait ce qu'il donne.
Donc, il n'y a pas de sujet. Le libre-échange est fondamentalement une très, très bonne chose. Qu'il faut encourager entre pays similaires, entre pays qui se ressemblent. Il faut éviter la surréaction. Autant il y a un vrai sujet avec la Chine, sur la fabrication, par exemple, des batteries au lithium, dont le New York Times a montré récemment que les ouvriers forcés ouïghours étaient impliqués dans la fabrication des batteries au lithium. Vous avez aussi des problèmes effectivement de non-respect de normes environnementales, avec des mines de lithium qui sont extrêmement polluantes, qui tuent des poissons, etc., dans les rivières à proximité. Donc il y a des vrais sujets avec la Chine sur ces sujets-là.
Donc il faut choisir ces combats.
Et en plus sur des industries qu'on peut considérer comme stratégiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Je pense même d'ailleurs que ce que j'ai écrit dans ce que j'ai décrit dans mon livre, c'est qu'à un moment donné, ces différentiels de normes sociales et environnementales, ça peut même être un facteur pour aider des pays à émerger. C'est-à-dire qu'on peut aider des pays émergents comme le Bangladesh, par exemple, qui est très important en matière de textile, production textile, à émerger en exigeant petit à petit une montée en puissance de ces normes sociales qui sont déplorables, en se rapprochant des nôtres, en donnant des incitations, etc. Donc, il ne faut pas non plus fermer complètement la porte. Il faut essayer de s'en servir pour essayer de faire.
Il faut regarder au cas par cas.
Il ne faut pas.
Je fais réagir Agnès. Elle réagit toujours en troisième. C'est pas facile d'être numéro 3.
C'est dur, je vais prendre ça pour du sexisme, voyons.
Ouais, voilà, surtout pas. Parce que c'est pas facile d'arriver en troisième, dans une discussion.
Non, mais oui, là-dessus, moi j'entends le différentiel entre le type de partenaire commercial au niveau international. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine un peu, parce qu'on a vu avec toute la période sur les agriculteurs, le vote du Sénat est le résultat de cette période-là.
Ambiance de rejet, globale de rejet.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand le ministre de la Culture, de l'Agriculture, et le président se penchent sur les questions agricoles, ils sont focalisés sur la balance commerciale. Et c'est vrai que ça imprime énormément la façon dont l'État français considère l'agriculture française. Donc la question que pose...
Troisième excédent commercial.
Oui. Sur, les céréales, sur les céréales
et
le vin.
Mais pas surtout, voilà. On est d'accord.
Et
Les éleveurs, c'est laisser les parents pauvres.
Voilà, regardez comme la PAC favorise les très grosses exploitations céréalières et viticoles.
Absolument.
Qui sont par ailleurs souvent les plus grosses consommatrices d'intrants chimiques divers et variés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'y touche pas tellement à ces intrants. Et pas assez en tout cas. Et le fait est que quand on a cette vision biaisée de l'agriculture, ça se fait au détriment d'une agriculture vivrière. Et je pense que la réaction vis-à-vis du CETA est une réaction qui arrive dans cette séquence-là, où finalement il y a une interrogation sur la production locale et vivrière. Et moi je pose la question plus loin, c'est la pertinence que des produits périssables traversent la terre quand au lieu d'aider les agriculteurs vivriers, parce qu'on ne vit pas de céréales et de vin, hein, voilà. C'est le pain et le vin, c'est bien en slogan, mais ça ne suffit pas à vivre sainement, sinon ça fera beaucoup plus de maladies longue durée. Il faut développer cette agriculture vivrière. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir et la façon d'aborder les accords internationaux, c'est de quoi on a besoin localement. C'est pas du patriotisme, du chauvinisme, c'est de quoi on a besoin pour se nourrir localement, parce qu'effectivement, une tomate, déjà, c'est pas encore la saison et ça fait pas 10 000 km sans dommage.
C'est clair.
En tout cas, c'est pas la peine de rejeter le libre-échange de manière systématique, en bloc. C'est un peu l'ambiance, et elle a raison, Agnès, à la suite de la colère agricole.
Ça mériterait un débat plus large sur le libre-échange, l'avantage comparé pour les différentes catégories de population du libre-échange et du libéralisme, mais je pense pas que ce soit le sujet.
Bon.
Ouais. Que ce soit le lieu, en tout cas. Même si ce serait fascinant de débattre de l'intérêt pour le plus grand nombre d'un modèle économique vis-à-vis d'un autre. Voilà.
Vous vouliez réagir à ça, Léonidas
Kalogeropoulos? Non, mais c'est sur le libéralisme que je reviens, parce que de la même manière qu'il ne faut certainement pas jeter le libéralisme et le libre-échange à cause d'une analyse qui est nécessaire, avec discernement. Et d'ailleurs, juste le rappeler, pourquoi est-ce que c'est sain d'avoir des frontières ouvertes lorsqu'il y a une concurrence dans des conditions équivalentes et loyales? C'est que ça stimule le progrès et l'efficacité. Mais ça stimule le progrès et l'efficacité si on est effectivement dans des conditions loyales et équivalentes, que ce soit en matière de numérique, de voitures au lithium, enfin à batterie électrique, ou sur les conditions de l'élevage des animaux. Et effectivement, si on est dans des conditions équitables, à la fois socialement et d'un point de vue environnemental, eh bien, c'est très bien que cette ouverture existe. Si, en revanche, on est sur du dumping social et environnemental, tout ce que l'on a réussi à faire avec le libre-échange, c'est à couler la production locale et à détruire notre modèle social. Donc, c'est là où il faut véritablement le faire avec
le gouvernement. Mais le curseur est difficile à poser. Franchement, le curseur... J'entends ce que vous dites,
que la caricature, dans un sens ou dans l'autre...
Je suis sensible aux deux analyses, mais je trouve que le curseur est bien difficile.
Et très difficile, vous avez raison.
Quand vous faites un accord de libre-échange, le principe, c'est de mettre des quotas sur différents produits qui... sur ces quotas-là auront des droits de douane préférentiels. Et vous êtes obligé de faire quelque chose où la partie d'en face il retrouve aussi quelque chose. Donc il y a forcément des gagnants des deux côtés, mais il y a aussi des perdants des deux côtés, et c'est toujours pareil. Faut-il assumer les perdants?
Faut-il faire du libre-échange sur tous les produits?
C'est ça. Et à un moment donné, il faut privilégier peut-être certaines industries stratégiques, peut-être des produits alimentaires, effectivement, dont on estime qu'il faut continuer à les maîtriser chez nous, effectivement, et peut-être des taxes carbone renforcées pour les tomates kenyanes et les haricots kenyans. Le sujet, c'est ça. Effectivement, de toute façon, c'est des sujets qui sont effectivement très complexes, et dans le débat politique est rapidement caricatural.
Ah ben, ils sont traités avec l'évidence. C'est bien, c'est pas bien, c'est oui, c'est non, c'est
extrêmement binaire. Or, c'est des sujets extrêmement complexes. Et je pense qu'il faut à un moment donné dire, voilà, il y a quelques industries, quelques activités agricoles qu'on veut conserver chez nous pour tout un tas de bonnes raisons, qu'on estime stratégiques. Par exemple, le véhicule électrique au lithium. Au passage, c'est au cœur de la campagne présidentielle actuelle. J'arrive des États-Unis, j'ai passé une quinzaine de jours là-bas, là, je suis arrivé vendredi. Il y a eu tout un débat parce que Trump avait dit que it's going to be a bloodbath s'il n'est pas réélu. Et en fait, il parlait effectivement d'un bloodbath, d'un bain de sang dû au fait que les fabricants chinois d'automobiles s'installent maintenant au Mexique pour fabriquer des véhicules électriques au Mexique et les importer effectivement grâce à l'ALENA, grâce au NAFTA, sans droit de douane aux États-Unis. Il dit ça, c'est inacceptable et donc je taxerai fortement à 100% les véhicules chinois fabriqués au Mexique. Donc c'est complètement, je dis pas qu'il a raison, mais à un moment donné, c'est, je suis pas trumpiste du tout, hein, ne nous trompons pas, mais il pose le problème. C'est le problème. C'est quelles sont les activités qu'on souhaite conserver où on estime que on ne tolère le choc social environnemental.
Il faudra expliquer à la population que si on décide de surtaxer des produits qui ne répondent pas aux normes,
ça coûtera plus cher.
Mais voilà. Il faut l'assumer.
Mais ça créera des emplois pour les classes populaires, Nicolas.
Je voudrais juste rappeler
des emplois pour les classes populaires.
L'idée du libre-échange, c'est de stimuler une concurrence saine. Ce n'est pas d'avoir une concurrence qui tue le match. Je veux dire par là que s'il s'agit d'autoriser le dumping parce que les voitures chinoises sont fabriquées dans des conditions environnementales qui sont déplorables, effectivement avec du travail forcé et de surcroît subventionné par des taxes et des subventions de l'État chinois, c'est juste du dumping. Donc effectivement, on n'aura pas d'industrie européenne de voitures électriques. Et il y a un moment donné où ces voitures qui auront été peu chères et qui auront totalement démoli toute capacité de production européenne, eh bien remonteront leur prix, comme dans tout phénomène de dumping. Donc c'est juste une illusion de courte durée. Et l'idée de mettre le consommateur à l'épicentre de tout, plutôt que l'entrepreneur qui est celui qui donne de l'emploi et qui fait que le consommateur vide son travail, me semble être une erreur du libéralisme.
Et par rapport à la société tout à l'heure. Et on parlera de qualité et de
questions santé. Le citoyen plus que le consommateur.
Aussi de ce qu'on consomme. Parce que s'empoisonner en consommant, c'est pas forcément un idéal.
Il profite de l'absence de Jean-Marc Daniel, Léonidas Kalogeropoulos.
Mais je l'accueillerai volontiers avec beaucoup d'amitié.
Non, et puis Nicolas, on créera des emplois pour les classes populaires. Enfin, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a une rébellion des classes populaires dans tous les pays développés. Aux États-Unis, elle s'est traduite par le vote Trump en 2016. Elle risque de se retraduire à nouveau par le vote Trump. Hein, toute la Rust Belt du centre des États-Unis qui a été totalement désindustrialisée. Il y a même des économistes qui ont montré que les counties, les régions où on votait le plus Trump, c'était les régions qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Hein, il y a une corrélation très très directe. Il y a un économiste du MIT qui l'a démontré très très clairement. Et on a le même phénomène chez nous. Je veux dire, le vote populiste en France, il est très large, hein, mais il était au départ très corrélé avec les régions industrielles.
Quand vous preniez les zones touchées, de chômage en France, la carte électorale, c'était assez impressionnant de voir le lien qu'il y avait entre
les régions industrielles étaient le plus touchées, le nord et l'est de la France. Et ça a été refait dans tous les pays. En Angleterre, c'est pareil. Le Brexit, il y a des économistes anglais qui ont fait les mêmes analyses. Donc le libre-échange version 2001, entrée de la Chine dans l'OMC, le libre-échange tous azimuts, sans prise en compte des normes sociales et environnementales, ça a provoqué ça. Ça a provoqué une rébellion des classes populaires dans les pays développés. Donc attention quand même aux conséquences. Donc on a un modèle, les partis de gauche dans tous les pays développés se sont mis à laisser tomber les classes populaires en se disant de toute façon les ouvriers vont disparaître. Les Français l'ont fait, le PS français l'a fait.
C'est le grand virage du PS en 2001.
Oui, mais pardon.
C'est Serranova qui leur avait leur conseillé cette idée.
Le Parti démocrate américain l'a fait aussi, le Parti travailliste anglais l'a fait aussi. Ils ont tous laissé tomber les classes populaires.
Et l'idée de faiblesse, c'était une alliance invraisemblable entre certains libéraux et effectivement une gauche qui dit de toute façon.
La France des années 70 se voyait comme un pays de col blanc et plus un pays de col bleu.
C'est ça.
Et ça, encore une fois, notre haute administration, nos grands corps.
Oui.
Et ça se fait au détriment, effectivement, de gens qui souhaitent travailler dans de bonnes conditions.
Donc ça suppose de rouvrir ce débat qui est complexe, effectivement, et de faire des choix entre qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder, et où est-ce qu'on veut un vrai libre-échange, effectivement. Le libre-échange ne fonctionne bien qu'entre pays qui se ressemblent et qui ont des normes, où les règles du jeu sont à peu près les mêmes. Quand c'est pas les mêmes pour tout le monde, ça fonctionne pas.
Sur pas mal de produits, ça va nous mettre dans une position délicate.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire des choix, Nicolas.
Est-ce qu'on vivra moins bien
des choix?
Je suis complètement d'accord sur l'idée qu'on a eu une forme d'aveuglement collectif à la fin des années 90, avec cette idée que la France était un pays de service, que les usines ne servaient à rien.
C'est ça.
Et que,
Mais
je suis suffisamment en désaccord avec le fameux Jean-Marc Daniel là-dessus.
C'était
la doxa américaine à la base, qui a été reprise sans beaucoup d'esprit critique par les Européens.
En l'occurrence, mettre l'entrepreneur plutôt que le consommateur à l'épicentre de le raisonnement économique, ça permet d'éviter ce genre de sottises. Je maintiens.
Et remettre un peu de démocratie dans l'économie, oui. C'est pas mal aussi.
Oui, on a fini. Désolé, on ne peut pas bien aller sûr. Plus loin
bien sûr.
Sur les autres sujets que j'avais pu proposer aujourd'hui.
Vous l'aurez dit.
La répétition,
c'est le socle de la pédagogie.
Merci. Exactement. Agnès, merci. Michel, d'avoir été là. Léonidas Kalogiropoulos et Denis Père. J'ai eu pas mal de réactions essayant de comparer, de trouver des éléments de comparaison entre le prix du travail en France et le prix du travail dans les autres pays. Chacun a un peu sa lecture, c'est d'ailleurs assez marrant. Bon, j'ai pas le temps de vous donner le détail. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.